Le nom d'Alain Jessua n'est pas très connu du grand public. Et pourtant, il fut l'un des rares cinéastes en France à oser avoir abordé le cinéma d'anticipation, parfois à la lisière du fantastique. Un réalisateur prémonitoire et intuitif dont la majorité des films a traité des thèmes qui font toujours l'actualité. L'obsession du tout sécuritaire, l'exploitation des travailleurs immigrés, la société du spectacle, la peur de vieillir. Le cinéma de Jessua est aussi peuplé des grandes stars des années 70 et 80. Alain Delon, Annie Girardot, Patrick Devers, Gérard Depardieu, Jean-Yann. À l'occasion de la sortie en Blu-ray de Traitement de choc et Armageddon, dans le cadre de la collection Mes années 70, éditée par Studio Canal, replongeons dans la carrière et l'œuvre de ce cinéaste iconoclaste et ambitieux.
Une histoire de cinéma. Un podcast revu et corrigé, coproduit par Tsugi Radio et présenté par Antoine Julien.
Pour faire mon rôle de flasher heureux, je prends exemple sur ma mère. Ma mère qui est une catholique endurcie, toujours heureuse, toujours bien, et alors je copie ma mère, j'ai un exemple formidable. Alors je fais chaque fois que j'ai un problème, je me dis, tiens, comment je pourrais faire pour avoir l'air heureux dans telle situation, et tout ça, je pense à ma mère.
Elle va être contente.
Elle va être ravie. Elle va être ravie de voir comment je la vois. Elle va être sur le cul. Ouais. On n'apprend pas un texte, en fait. Dire un texte, c'est pas une question de mémoire. Moi, je me souviens d'un texte à partir du moment où j'ai compris comment je vais le jouer. On croit qu'on peut être naturel devant une caméra. Quand il y a une caméra qui tourne, qui est là devant nous, et ben, en fait, c'est le désert. Hein. Dans la tête, il n'y a plus rien. Et puis, il faut tout reconstruire. Et moi, pour tout reconstruire, et ben, je suis obligé de boulonner beaucoup. C'est-à-dire que je travaille à la veille. Avant de me coucher, crac, je prends le scénar, je fais ça juste avant de m'endormir, parce que j'ai l'impression que pendant la nuit, ça continue de fonctionner inconsciemment.
Nous sommes en mars 1982, sur le plateau de Paradis pour tous. Pour son sixième long métrage, le réalisateur Alain Jessua a imaginé une société dans laquelle le bonheur serait la seule règle de vie. Patrick Devers, que vous venez d'entendre dans cette archive, interprète un homme qui, suite à sa tentative de suicide, devient le cobaye d'un médecin qui a inventé un traitement pour combattre les états dépressifs et rendre les gens parfaitement heureux. Alain Jessua a eu l'idée du film lors d'un séjour à Los Angeles, où une amie lui avait prêté une magnifique villa dans le quartier chic de Bel Air. Mais le cinéaste se sentait terriblement seul et ne supportait pas l'aspect très lisse de la côte californienne. Un jour, au supermarché, un caissier lui demanda mécaniquement « Comment allez-vous aujourd'hui ? » Et à la place de lui répondre « Bien, merci », Jessua brisa la convenance d'usage en lui répondant « Pas terrible ». Le pauvre caissier s'est littéralement décomposé devant lui, car le cinéaste avait brutalement rompu une cordialité tout autant attendue qu'artificielle. C'est à partir de cet instant qu'il visualisa une ville où les habitants vivraient dans un bonheur factice, un monde merveilleusement anesthésiant. Patrick Devers, lui, ne nage pas spécialement dans le bonheur, échaudé par une profession qui se refuse toujours à le distinguer malgré de nombreuses nominations au César, et secoué par d'importants problèmes personnels et financiers. Le 13 juillet 1982, Alain Jessua, alors en plein mixage de Paradis pour tous, apprend le suicide de Patrick Devers. L'acteur avait déjeuné le jour même avec Claude Lelouch en vue de la préparation d'un nouveau film dans lequel il devait interpréter le boxeur Marcel Cerdan. Jessua est anéanti, comme l'ensemble du monde du cinéma, en état de sidération face à un tel geste. Le cinéaste avait gardé un souvenir intense du tournage avec Devers, un acteur hors des normes avec lequel il avait su trouver une osmose qu'il n'avait encore jamais rencontrée avec un comédien. Le 25 août 1982, Paradis pour tous sort sur les écrans. Le film est étrillé par la critique, particulièrement de la part du journaliste Marc Esposito, qui écrivit dans le journal Première « C'est bien triste de voir pour la dernière fois Devers dans un nouveau film et que ce soit celui-là, un mauvais film, avec un bon sujet et un grand acteur, un film déplaisant tout de même, parce que les acteurs y sont maltraités, parce que la nudité des comédiennes y est filmée avec un voyeurisme de jardin public, parce que le scénario, sous prétexte d'anticipation, n'a que faire de la plus élémentaire vraisemblance. En plus, il n'y a pas le moindre plan visuellement intéressant et ça fourmille de nécessités publicitaires vraiment trop voyantes. Triste. Le cinéaste se voit en plus accusé par les médias d'avoir profité de l'état dépressif de Devers. Pour Gessoir, c'est une fois encore une absence totale de reconnaissance, lui qui s'est aventuré plusieurs années auparavant dans une voie que le cinéma français n'a que trop rarement explorée. Gessoir naît le 16 janvier 1932 dans le 16e arrondissement de Paris. À l'âge de 6 ans, il connaît ses premiers émois cinématographiques grâce au Pathé Baby, ce projecteur à manivelle que possédaient des amis à lui. Il vit ainsi les premiers films muets de Charlie Chaplin et Fritz Lang. À 15 ans, après la Libération, il prit l'habitude de sortir se planquer tous les jeudis, le jour où il n'avait pas école, derrière les décors des studios de cinéma pour voir les tournages, en compagnie du neveu du réalisateur Julien Duvivier. Le jeune Gessoir est rapidement fasciné par ces gens travaillant dans l'usine à rêve. Il développe également sa cinéphilie en fréquentant les ciné-clubs. Son bac en poche, le jeune Gessoir veut à tout prix intégrer ce monde. Il débute dans le cinéma à l'âge de 19 ans comme stagiaire sur le film Casque d'or de Jacques Becker en 1952. Puis c'est la rencontre décisive avec Max Fuls, qu'il considère comme un maître et son inspirateur majeur sur la direction d'acteur, comme il le raconte dans cette interview donnée pour la revue Gonzaï. Je suis vraiment rentré dans le métier avec le tournage de Madame 2, le film de Max Fuls, qui, comme Becker, était à l'écoute des jeunes. C'était très rare à l'époque, le cinéma c'était une hiérarchie quasi militaire. Fuls m'a beaucoup appris sur la direction d'acteurs, il ne fonctionnait pas comme les réalisateurs à l'école Renoir, qui dirigeaient les moindres intonations. Lui vidait son plateau pour les répétitions et ne voulait pas contrarier le jeu naturel des acteurs. C'était novateur. Après ces années d'assistanat, Gessoir veut devenir lui-même réalisateur, ne supportant plus ce costume d'assistant qu'il compare à un bureaucrate. Il souhaite pleinement rentrer dans la création. Il subit un gros accident de voiture sur le tournage d'un film d'Yves Allégret. Mais par chance, il venait de souscrire la veille de l'accident une police d'assurance. Et c'est grâce à la prime qu'il put tourner son premier et unique court-métrage, Léon Lalune. Jacques Prévert, séduit par le projet, accepta d'en faire la présentation. Le film fut très bien reçu et valut à Gessoir de remporter le prix Jean Vigo en 1957. Le cinéaste se lança alors dans l'adaptation d'un roman de Georges Simenon, L'enterrement de Monsieur Bouvet, mais le projet n'aboutit pas. Gessoir avait versé des droits d'option du roman et il eut un jour l'heureuse surprise de recevoir une enveloppe dans laquelle figurait un chèque de Georges Simenon lui-même en signe de dédommagement, ce qui lui permit de réaliser son premier long métrage, La vie à l'envers, en 1964. Mais c'est aussi grâce au système de l'avance sur recette, dont il fut l'un des premiers bénéficiaires, que La vie à l'envers put voir le jour. L'acteur Charles Denner, que Gessoir a choisi après avoir vu Le Landru de Claude Chabrol, incarne Jacques Valin, un agent immobilier sombrant progressivement dans la folie, une folie vécue comme un refuge protecteur contre la société. Dans la revue Gonzaï, voici comment Gessoir décrivit sa ressemblance avec son personnage. « Jacques est vraiment très proche de moi, sans le côté schizophrène bien sûr. » La solitude de ce personnage me correspond bien. Vous savez, c'est l'idée de Pascal, tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il ne peut pas vivre entre quatre murs. Je suis persuadé que si on arrivait à mieux construire nos solitudes, la vie n'en serait que meilleure pour tous. Et le personnage de Jacques est certainement mon héros le plus positif. Finalement, il réalise sa vie, il trouve le bonheur, même si c'est dans la folie. C'est un asocial heureux.
J'ai une très belle chambre. Très claire, très blanche. Comme dans une clinique. Viviane, déguisée en infirmière, est venue me servir à manger. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore touché au magnétophone. Il faut que je fasse durer le plaisir. Je suis heureux. Je pourrais rester comme ça très longtemps, sans rien faire. Finalement, je les ai eus.
Afin de retranscrire le plus justement possible l'état intérieur de son protagoniste et sa transformation mentale, Gessoir décida de tourner son film en studio et demanda au pianiste Jacques Loussier de composer la musique inspirée par l'œuvre de Charles Mingus. Alain Gessoir est aussi producteur de La vie à l'envers, une fonction qu'il ne cessera d'occuper durant toute sa carrière. Influencé par le journal d'info de Gogol, mais aussi par Kafka et Henri Michaud, le film est une surprise dans le paysage cinématographique français. Il remporte le prix de la meilleure première œuvre et le prix des critiques à la Mostra de Venise. Jeu de massacre, son deuxième long métrage, sort en 1967 et obtient le prix du scénario au Festival de Cannes. À l'instar de son personnage dans La vie à l'envers, Jessois se sent aussi à la marge du cinéma français. Contemporain de la nouvelle vague qui n'a jamais eu d'intimité ou de complicité avec ce mouvement et ne partage pas non plus son souci du réalisme, lui préférant le cinéma des années 30-40, comme il le raconte dans cette interview donnée à Culture au Point.
Dans l'histoire du cinéma, dans les amateurs, les vrais amateurs de cinéma, les rats de cinémathèque, ils vont donner la préférence à Renoir qu'à Carnet. Carnet et Prévert ont senti les clichés de l'époque. Et ces clichés sont parfois plus forts que la réalité. C'est-à-dire que si vous voyez Le jour se lève, ça me donne une idée plus juste de ce qu'on pensait de la condition ouvrière dans la première moitié du XXe siècle qu'un film réaliste sur les ouvriers. Parce qu'ils avaient compris ce que représentaient et toutes les aspirations du prolétariat. Et pourtant, c'est un film qui a été tourné en décor, avec une idée un petit peu fantasmée de la réalité, et ça en dit plus long sur la réalité. C'est un peu ça. Je ne dis pas que c'est ma démarche, mais ça en dit quand même très long. Parce que ça correspondait à toute une mythologie de l'époque. Donc très profond, quelque chose de très profond. Le cliché est quelque chose de très important. Parfois plus important que la réalité.
En mai 68, alors que Godard, Truffaut et Chabrol manifestent et font arrêter le Festival de Cannes, Alain Jessois est à rebrousse-poil, comme il le raconte dans l'interview donnée pour la revue Gonzaï. En 68, j'ai réagi d'une façon très différente de mes pairs. Ce qui me rendait malade, c'était tous mes camarades qui avaient déjà réussi et qui jouaient les révolutionnaires, des types qui du jour au lendemain changeaient d'opinion. Du coup, au lieu de participer à leur symposium, et même si j'avais déjà fait deux films, pendant les événements, je suis devenu ambulancier pour la faculté de pharmacie. Je ramassais des CRS blessés ou des mecs intoxiqués au gaz lacrymogène et je les ramenais en voiture à la fac pour se faire soigner. Quand on parle de révolution en mai 68, il faut mettre une sourdine. Il n'y a eu qu'un mort et encore par hydrocution. Je déteste la bien-pensance, ça me rend malade. Un artiste n'a pas à se situer politiquement. Je suis toujours effaré quand je vois un metteur en scène ou un acteur qui s'exprime sur ces sujets à la télévision. Mon avis n'a pas plus d'importance que celui du boulanger du coin. Mais j'ai participé à des manifestations, notamment après les morts de Charonne, l'affaire de violence policière à l'encontre de manifestants contre la guerre d'Algérie. Mais je l'ai fait de manière privée. Vous savez, les artistes disent souvent beaucoup de conneries parce qu'ils réagissent de manière sensible. Même quand j'ai fait l'ambulancier, cela relevait du sensible. Mais politiquement, c'est nul. Cela étant dit, en 68, nous avions une société qui était bloquée, en train de se minéraliser. Tous ces mouvements correspondaient à un besoin profond de changement. Par la suite, Jessois entreprit l'écriture d'un scénario très ambitieux, intitulé « La planète bleue ». Pour réussir à monter le film, le cinéaste avait besoin d'un apport financier américain, mais le projet tombait au moment où les studios découvraient les films à petit budget du nouvel Hollywood. Le film ne s'est donc pas fait, faute de moyens. Voici le synopsis de « La planète bleue » raconté par Jessois lui-même. C'était l'histoire d'une femme dont le mari astronaute mourait dans sa capsule spatiale. Quelques semaines plus tard, une entreprise de BTP envahissait son jardin et commençait à construire un abri anti-atomique extraordinaire. On pouvait y vivre pendant des années, et en appuyant sur un bouton, on se retrouvait par exemple dans un décor de rêve des Caraïbes, dans un monde reconstitué. Petit à petit, on découvrait pourquoi son mari avait fait construire cet abri. C'est certainement une des meilleures choses que j'ai écrites, mais Carlo Ponti, qui devait le produire, m'a trimballé pendant un an et demi. Je vivais une vie de clochard de luxe, d'hôtel en hôtel. Un matin, je me suis regardé dans un miroir et j'ai compris que j'étais vraiment en train de devenir fou. J'ai laissé tomber. Qui sait, ces abris anti-atomiques existeront peut-être un jour. Épuisé par cette expérience infructueuse, Jessois en va faire une cure de thalassothérapie en Bretagne. Et c'est dans ce décor calme et reposant qu'il songea à filmer une histoire d'épouvante qui va devenir traitement de choc. Le cinéaste démarcha différents producteurs et eut toutes les peines du monde à les convaincre. C'est Annie Girardot qui va lui apporter l'appui qui lui manquait, comme il le relate dans cette interview présente dans les bonus de l'édition Blu-ray de Traitement de choc.
Et je suis arrivé à monter le film parce que je l'ai proposé à Annie Girardot, que Annie était emballée. Là-dessus, j'ai des producteurs qui m'avaient refusé le sujet l'ont accepté immédiatement, parce qu'à l'époque, Annie Girardot était vraiment, vraiment une grande star, une des principales stars du cinéma français, star et vraie comédienne. Et puis, on avait comme coproducteur Raymond Danon, qui était très très lié avec Alain Delon. Il lui a proposé le rôle, et à ma grande surprise, Alain a accepté, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, le film s'est monté plus que facilement. Mais surtout, le point de départ, ça a été Annie Girardot, incontestablement.
Jessua posa sa caméra à Belle-Île-en-Mer, où se situe dans le scénario la clinique où Annie Girardot va faire sa cure. Cette clinique est tenue par le docteur Devillers, campé par Alain Delon, un intrigant et ténébreux médecin qui propose à ses patients une cure de rajeunissement miracle et très coûteuse. Mais cette institution bien sous tout rapport, en apparence, cache en réalité des événements étranges qui vont de plus en plus intriguer Annie Girardot, en particulier le personnel de la clinique composé essentiellement d'immigrés portugais qui vont disparaître mystérieusement. Pour Delon et Girardot, ce sont des grandes retrouvailles devant la caméra, plus de 10 ans après Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Convaincus par le projet, ils vont s'y impliquer totalement, appuyant même le cinéaste pour qu'il conserve la fin sombre initialement prévue, alors qu'un producteur voulait lui faire tourner une fin heureuse. Au milieu du tournage, Jessua convoqua ses comédiens dans le plus simple appareil pour une séquence de baignade en bord de mer qui fit la réputation du film, comme le cinéaste le reconnaît bien volontiers dans l'interview présente dans les bonus de l'édition de Traitement de choc.
Tous les acteurs s'y sont prêtés. Bon, moi j'ai donné l'exemple avec mon assistant, on s'est baigné, c'est une mer à 12-13 degrés, c'était une épouvante, mais on était heureux, on dirait que l'eau est bonne, etc. Il y avait des hommes grenouilles qui sont venus me voir et qui m'ont dit, vous savez, monsieur Jessua, il y a des vives qui se baladent sur la plage. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il me dit, on peut rien faire, mais c'est très douloureux. Ben, je dis, bon, ben, on prend le risque, et puis voilà. Donc ça, les acteurs l'ont jamais su. Et quand Delon est arrivé, tout le monde était à poil. Delon est arrivé là, il a vu tout le monde à poil et il n'a pas pu faire autrement que se mettre à poil. Et je me souviens, c'est une scène qu'un des producteurs voulait couper. Et je me souviendrai quand même, là j'avais conscience de ce qui se passait. Il y avait Raymond Danon et je lui dis, tu vois Raymond, hein, cette scène c'est de l'or en barre. Et effectivement, moi je ne vais jamais voir les films en salle. Et il paraît à l'époque, le film était interdit au moins de 18 ans. Et il paraît qu'à l'époque, les filles tombaient dans les pommes quand elles voyaient Delon courir à poil sur la plage. Voilà, bon, et ça a été... Ça a été un des arguments. Vous voyez, je suis assez conscient, assez lucide. Ça a été sûrement une des raisons du succès du film.
Le film sort sur les écrans le 18 janvier 1973 et malgré son interdiction aux moins de 18 ans, rencontre un grand succès public avec près de 2 millions de spectateurs. La critique est plutôt déconcertée devant cette tentative rare de cinéma d'anticipation, un genre quasiment déserté en France. Alain Jessua détonne en effet avec cette fable violente, au rythme de la musique frénétique des tam-tams brésiliens, qui dénonce le culte de la jeunesse éternelle, l'individualisme à tout prix, et l'exploitation vampirique des pauvres par les riches, des pays du Sud par ceux du Nord, comme le confesse presque malgré lui le personnage du docteur Devillers, joué par Alain Delon, dans cet extrait de Traitement de choc.
Comment vous en êtes arrivé là?
Où?
Vous occupez de tous ces gens?
Regardez-les! Société en réduction. Attention. Les élites qui se planquent, qui ont peur de vieillir, qui ont peur d'elles-mêmes, qui ont peur de tout. Heureusement, leur bon docteur est là pour les guider, pour veiller sur eux. Ça va?
Oui.
Tant mieux. Je déteste ce pays. C'est gris, c'est tiède, c'est raisonnable. Berceau de civilisation, un bouillon de culture. À un moment, j'avais voulu vivre ailleurs, en Amazonie, au milieu des sauvages, comme on dit. Mais je n'ai pas tenu le coup, j'étais un étranger. J'ai retrouvé les miens, tous ces salauds, et finalement, je ne peux pas me passer d'eux. J'essaie de voir jusqu'où ils peuvent aller, c'est un jeu merveilleux.
La vision prophétique d'Alain Jessua est tout aussi manifeste dans Armageddon, qu'il tourne 4 ans plus tard. Inspiré du roman américain The Voice of Armageddon de David McCord Lippincott, le film suit un ouvrier déclassé, interprété par Jean Yann, qui, suite à un héritage, veut se venger des humiliations subies en multipliant les chantages au meurtre. Il se fait appeler Armageddon. Son obsession, passer à la télévision pour que l'on parle de lui. L'inspecteur chargé de l'enquête fait appel à un psychanalyste renommé joué par Delon afin de cerner le profil de cet homme insaisissable et dangereux. Plus de 20 ans avant l'essor de la télé-réalité et 30 ans avant l'apparition des réseaux sociaux, Gessoir anticipe déjà une société narcissique en soif permanente d'images, une vision qui a particulièrement séduit Jean-Yann, comme il le raconte dans ce reportage d'époque, présent dans l'édition Blu-ray d'Armageddon.
Plus les progrès de la presse, plus les progrès des choses audiovisuelles sont grands, et moins le public peut s'exprimer. Donc par conséquent, on peut envisager que bientôt un certain nombre de gens excédés vont vouloir eux aussi se servir. C'est pas le tout de dire, si vous voulez, que Carter a été élu grâce à la télévision. À partir du moment où on dit que la télévision est une chose tellement puissante, et à partir du moment où on dit que la radio est une chose qui permet d'influencer le pays, les criminels vont vouloir plutôt s'emparer de la télévision ou de la radio que s'emparer de l'argent ou des armes.
Contrairement au plateau de traitement de choc où leur relation fut robot fixe, Delon et Gessoir ne s'entendent pas sur Armageddon. Selon le réalisateur, la star, qui n'était pas prévue à l'origine au casting, n'a suivi que très rarement ses indications de jeu. À nouveau coproducteur, Delon n'écoute pas le cinéaste, frustré sans doute de n'être qu'un faire-valoir au service de Jean-Yann, qui retrouve Gessoir après un petit rôle dans La vie à l'envers et qui livre ici une de ses meilleures interprétations, fascinant en homme dérangé et inquiétant.
Vous ne riez plus ? Vous avez peur, hein ? Vous comprenez que ça, la peur ? Mais moi, il me suffit d'appuyer sur un petit bouton ici, à côté de moi. Je vous entends plus. Hein ? Vous m'écoutez maintenant ? Vous m'écoutez parce que vous avez peur ? Et vous avez peur parce que vous savez que j'ai tué ? Eh ben oui, j'ai tué parce que je voulais parler. Mais vous n'avez peut-être pas besoin qu'on vous parle, hein? Vous n'avez peut-être pas besoin qu'on vous parle, ou en tout cas, pas comme ça. Vous ne voulez pas qu'on vous dérange? C'est ça, vous ne voulez pas qu'on vous dérange? Vous savez pas écouter, vous savez pas voir, on vous a endormi. Des larves, des grosses larves, des gros insectes qui courent partout, des gros insectes qui se bouffent, qui copulent, voilà ce que vous êtes, des grosses larves. Et moi qui voulais vous réveiller, mais non, vous restez là, dans vos petites cages, et vous rigolez, vous digérez en rigolant. Et vous osez me juger, moi, vous osez me juger, avec vos yeux morts, des morts qui me jugent, moi. Et vous pouvez rester comme ça sans rien faire, mais bon, moi, j'ai essayé de faire quelque chose, moi, j'ai tenté de faire quelque chose, et tout seul, personne n'a pu m'en empêcher.
L'aspect pourtant précurseur de long-métrage ne convainc pas la critique, qui dans son ensemble éreinte le film à sa sortie en 1977 et ne rencontre pas davantage de public. Alain Gessoir sera pourtant un nouveau visionnaire, avec Les Chiens en 1979, où il brosse une société en proie à l'insécurité, aux besoins d'autodéfense, à travers le personnage d'un directeur de chenil, joué par Gérard Depardieu, dont les chiens deviennent l'expression d'une déshumanisation menaçante. Après l'échec de Paradis pour tous, Gessoir tournera encore 3 autres longs-métrages avant d'abandonner le cinéma pour la littérature, signant 8 romans jusqu'à sa mort, survenue en 2017, quelques mois après une rétrospective donnée en son honneur à la Cinémathèque française. Une reconnaissance tardive pour un cinéaste inclassable, peu considéré tout au long de sa carrière, s'aventurant dans des contrées cinématographiques rarement explorées par le cinéma français, osant le décalage avec les réalités, et qui a toujours eu Franz Kafka comme modèle d'inspiration. 10 ans avant la création de Love Story, il avait même écrit un scénario, non tourné, intitulé « Vivre en direct ». Le pitch, une productrice de télé offre une fortune à une famille pour la filmer 24 heures sur 24 pendant 6 mois. Alain Gessoir était un homme passionné par son art, pas toujours conciliant, déterminé à conserver sa vision malgré les contraintes du métier, quoi qu'il en coûte.
J'étais complètement obsédé par le cinéma, très dur, très méchant, et je regrette cette période. Parce que maintenant je suis trop gentil avec les gens. Et qu'une équipe, c'est pas vrai, une équipe, les gens s'en foutent. Et que quand on est trop gentil, on laisse passer trop de choses. J'ai été dur, mais dur dans le sens que increvable, exigeant, râlant, gueulant, courant partout. Bon, voilà, mais c'est ma nature. C'est encore ma nature. Sur un tournage, c'est ce que j'aime dans le tournage. C'est l'action, c'est l'armée, quoi, dans le bon sens du terme. C'est un combat. Un film, c'est un combat. Il ne faut pas se leurrer. Et quand vous commencez de céder, c'est foutu.
Thank you.
C'était une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma en partenariat avec Tsugi Radio. Retrouvez une histoire du cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et Corrigée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre.